Chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour notre émission Palabre en cette année 2023. Et permettez-moi de vous adresser mes vœux les meilleurs. Alors, avec qui vais-je palabrer aujourd'hui? Eh bien, je reçois pour vous, chers amis auditeurs, Jocelyne Leblaise pour son roman nouveau, Un pont sur l'océan, aux éditions Orphie. Jocelyne, bonjour et bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je disais, je te reçois pour cet ouvrage, Un pont sur l'océan, aux éditions Orphie. Après le succès des fenêtres sur l'océan, roman finaliste, je le rappelle, du prix Métis de la ville, des lecteurs de la ville de Saint-Denis, tu nous reviens, Jocelyne, avec une suite monumental, un roman absolument captivant, Un pont sur l'océan, un roman d'une belle eau, vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui te fait courir en littérature? Parce que cela demande un travail colossal pour écrire un tel roman.
À vrai dire, je ne sais pas répondre à cette question. En fait, je suis curieuse. J'aime l'Italie, j'aime la Réunion. Évidemment, je voulais marier ces deux contrées.
Oui, mais quelle belle manière d'occuper son temps libre quand on a passé sa vie à enseigner et puis on se retrouve après, ben on le dit, à la retraite.
Oui, mais je crois qu'il y a chez moi un désir très fort de transmission. D'une part, je suis allée en Italie, donc dans le dans le Piémont et en particulier dans le Val Cervo pour écrire toute la partie donc sur l'Italie. J'ai emmagasiné tout un tas d'informations, de ressentis. Mon personnage, il vit avec moi. Il est d'une part Angelo, il y a un peu de moi chez Angelo, je dois l'avouer. Et puis, j'avais besoin de continuer à le faire vivre, en fait.
On reviendra sur les personnages. Parlons du titre. On avait des fenêtres sur l'océan et maintenant on a un pont sur l'océan. Faut-il comprendre ce pont comme une espèce de passerelle entre deux mondes, entre deux cultures, entre deux époques?
Tout à fait, c'est exactement ça. Oui, c'est un pont qui est jeté donc entre la Réunion, effectivement, et le Piémont. C'est un pont aussi entre Angelo, et puis sa propre histoire, son géniteur qui est piémontais. Donc effectivement, c'est un pont symbolique, c'est un pont imaginaire, c'est un pont entre des cultures, effectivement.
Avant d'entrer dans le roman, ce qui frappe à la lecture globale, c'est la documentation. L'exceptionnel travail de documentation. L'Odyssée d'Angelo est le lieu d'un roman à la fois anthropologique, sociologique, passerelle, comme je le disais, entre deux mondes, voire entre trois mondes, une sorte de radioscopie d'une époque. Tout cela sur fond d'une histoire d'amour difficile, mais pas impossible. Un roman, je l'ai dit en préambule, qui nous embarque. Comment as-tu travaillé? Combien de temps as-tu mis à te documenter, puis à ajuster ce document à la trame narrative?
Alors, je me documente au fur et à mesure de mes besoins. Il y a des écrivains qui commencent par compiler toute une documentation. Moi, je fonctionne pas comme ça. Parce que l'histoire se construit au fur et à mesure. Au fur et à mesure de... ce personnage, il vit en moi, donc je suis tout le temps avec lui. Et il s'exprime, en fait. Je ne fais pas que ce qu'il veut. Ce que moi je veux, je le suis, c'est lui qui est un petit peu le moteur. Et puis ce qui est important pour moi, c'est le contexte historique, le contexte social. Donc de ce côté-là, je m'informe. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis allée sur place, je suis allée dans le Val Cervo. Je me suis renseignée également sur le cyclone de 1904. Donc je suis peu allée aux archives. Par contre, je suis allée à la BDR où j'ai trouvé certaines informations. Et puis Internet, c'est quand même formidable parce que moi, Internet, je suis tout le temps dessus. Il y a quand même la possibilité d'avoir tout un tas d'informations. Et je vais sur des sites italiens, d'histoire italienne, qui justement me sont très utiles.
Mais à proprement parler, sur le plan générique, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un roman historique, tellement tu conjoins plusieurs éléments, je disais anthropologiques, sociologiques, culturels, et puis historiques, bien sûr.
Tout à fait.
Bien, alors, nous entrons dans le roman et je lis cette épigraphe que j'aime particulièrement. « Tout passe et tout demeure, mais notre affaire est de passer en traçant des chemins. » Magnifique Antonio Machado.
Oui, j'ai supprimé toute une partie du poème pour ne garder que ce qui me convenait, effectivement. Oui, c'est ça. Moi, c'est ma manière de tracer un chemin. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le soin, je suis quelqu'un qui est dans la transmission. Et ce que je fais en permanence, en fait, bon, j'ai été prof, ça se sent encore.
Oui.
Je ne peux pas m'empêcher de creuser un sujet et puis de me dire que voilà, je vais toucher des lecteurs. Je ne sais pas ce qu'ils en prendront, ce qu'ils en garderont, mais c'est un petit peu une mission que je me donne et que j'ai besoin de garder. Moi, ça me tient en marche, même si j'aime pas ça, cette expression maintenant. Voilà, je suis vivante, j'écris, j'existe.
Absolument, quelle belle phrase. J'écris, j'existe. Alors, rentrant dans le roman qui commence in medias res, avec une entrée in medias res, à Marseille en 1894. Nous avons une narration à la troisième personne avec des bonds, des détours. Cette construction avec des chapitres assez courts est à mon sens très réussi en ce que par le biais des analepses, c'est-à-dire des retours en arrière pour nos auditeurs, tu nous permets de passer subtilement d'une époque à l'autre, d'un lieu à l'autre. C'est Angelo qui se souvient, c'est Angelo qui se remémore et puis il nous fait transiter de Marseille à La Réunion, du Piémont à La Réunion. Et voilà. Donc parle-moi de ce travail de construction, de structure de ton roman. Et puis l'idée était d'aérer effectivement en faisant beaucoup de chapitres.
Oui, alors en fait, bon, si je fais des retours en arrière comme ça, c'est parce qu'en fait, un individu, donc ben Angelo, mon personnage, n'est pas que dans le moment présent. Il a une histoire, et donc quand on vit quelque chose, il y a des retours en arrière. On s'est construit à partir du passé. Et donc c'est ça que j'ai voulu continuellement exprimer, mettre en lumière.
Oui, mais justement, tu le fais de manière tellement subtile, parce qu'on aurait pu se dire, il faut absolument parler de La Réunion, il faut parler du Piémont, il faut parler de Marseille, mais c'est fait avec une telle justesse, une telle subtilité, que c'est tout à fait naturel, et puis c'est empreint d'un réalisme extraordinaire. Et c'est là, on revient sur ta documentation, où on sent qu'à la limite, on pourrait dire, elle a vécu des choses tellement...
Mais j'y suis.
Oui.
Mais je vis ce que j'écris, effectivement.
Alors, justement, dans ce passage d'une culture à l'autre, d'un lieu à l'autre, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que tu as ingéré, tu as mis dans tes textes des expressions, des tournures, des éléments du lexique, mais aussi subtilement de la culture du lieu dont il est question.
Oui. Alors, pour La Réunion, évidemment, ça fait 40 ans, ça va faire 40 ans que je suis à La Réunion, donc je me sens de plus en plus réunionnaise, et je le revendique. Donc, qu'il y ait des expressions créoles, c'est un petit peu, c'est normal, ça vient naturellement. Et puis, comme je t'ai dit, je suis allée dans le Piémont. J'étais en contact toujours avec un Piémontais qui m'avait fait visiter donc un écomusée du Val Cervo, qui m'a fait visiter également donc l'école de Campiglia Cervo où va Angelo. Donc et puis bon, tout ce qui touche à l'Italie me touche profondément aussi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc en fait, je pense que je dois être une espèce d'éponge qui est imbibée de tout ce que, oui, je crois que c'est ça aussi, qui est imbibée de tout ce qu'elle rencontre, tout ce qu'elle,
ah, oui,
tout ce qui se présente.
Un élément important dans la structure, ce sont les parties en italique qui, pour moi, participent vraiment aux effets du réel. Parce que tu nous fais entrer carrément dans la conscience de certains personnages par ces parties en italique. Je te demande, page 165, par exemple, je vois ce passage en italique qui me semble particulièrement intéressant.
Ah, oui,
je ne sais pas si tu veux lire un extrait, mais voilà.
Oui, moi je vais lire peut-être le premier paragraphe qui est un peu
long.
Oui,
par exemple.
Alors donc c'est la mère de, c'est la nonna, donc c'est la dame, on va dire, oui, la dame chez qui, la grand-mère de la famille chez qui est logé Angelo dans le Valcervo.
Oui, parce que c'est Nonna, ça veut dire donc la grand-mère. Mmh.
Voilà. Ouais. Je ne dis rien, mais je vois tout. Je vois tout et je laisse faire. Je la laisse faire, ma Pépina. À son âge, moi aussi, je pleurais l'absence, ses bras protecteurs, sa bouche gourmande, son désir jamais assouvi. Je l'ai pleuré tôt, l'amour de ma vie, mon Tommaso, et je le pleure encore dans le noir de la nuit. Plus aucun homme ne m'a touchée depuis mes 27 ans, et j'ai enterré mes fils, j'ai élevé mes filles, en espérant qu'elles ne connaîtraient pas le même manque, le même vide. Mais dans la vallée, y a-t-il d'autre destin que celui des jeunes filles qui convolent en noces, un jour d'été, la robe blanche d'espérance et une couronne de fleurs amoureuses sur la tête, un diadème de reine d'un jour, d'un seul jour, espérant garder leur mari dans la chaleur de leur jeune corps, qui souvent, le ventre plein, mettent en terre ceux qui les ont ensemencés. Il est écrit ici que les femmes sont nées pour être seules, pour porter des enfants qui connaîtront si peu leur père, pour garder la maison des ancêtres au prix de journées sans fin, de travaux si durs, de privation si longue.
Magnifique, vraiment magnifique. Et donc ce choix, je trouve ça mais vraiment d'une réussite extraordinaire. Hein. C'est parti en italique. Alors, ce dispositif narratif, à mon sens, projette la lumière sur chacun des personnages. Les personnages, nous allons en parler, justement, une galerie de personnages. Oui. Et c'est bien qu'au début, tu aies mis un peu une généalogie, oui, parce qu'il y a effectivement beaucoup de personnages, mais ils sont chacun bien individualisés, je trouve. Alors, à part, on peut voir les groupes, les syndiqués, les travailleurs, les ouvriers, etc. Mais les personnages, disons, principaux sont bien individualisés. Des personnages qui ne sont pas exceptionnels, mais qui permettent d'évoquer des lieux fondateurs où convergent les enjeux de leur existence. Alors, parle-moi de tes personnages, Angelo et ses sœurs, sa mère Eliette, son père, son petit-père Eugène, ses amis Antonio, Léa, Alessio, Lina et j'en passe. Comment as-tu créé ces personnages qui, pour le lecteur que je suis, paraissent tellement frais, tellement proches d'eux?
Alors, je suis bien embêtée de répondre à ta question, parce que pour moi, ça vient naturellement. Je suis emportée quand j'écris. Donc, ces personnages, ils s'imposent. Alors, il y en a un quand même, il faut que j'en parle, c'est Alessio.
Alessio.
Alors, d'abord, Alessio, pour moi, il a le visage, il ressemble à Rimbaud et il ressemble à Malatesta. J'avais les deux portraits.
Oui.
De ces deux personnes, quand je l'ai imaginé, et c'est un personnage qui m'a causé du fil à retordre.
Alors nous savons tous qui est Rimbaud. Malatesta,
c'est un anarchiste italien qui est très fameux puisqu'il a écrit l'anarchie, qui a été un livre de référence des anarchistes. Donc effectivement, il se balade toujours avec le livre de Malatesta dans la poche. Je voulais absolument, alors c'est peut-être chez moi mon côté rebelle qui ressort, et au fur et à mesure que je faisais mes recherches sur l'anarchie, je me disais quand même, c'est l'avenir.
Oui.
Et donc ce personnage, j'y tenais énormément. Il faisait contre-pied un petit peu avec Angelo, qui est quelqu'un,
oui,
justement, qui est quelqu'un
qui est réaliste, Angelo,
qui est réaliste, qui est pondéré et
oui,
qui en même temps porte une volonté assez forte, mais qui n'a pas
Qui est, je disais, même pas réaliste, mais lisse. On sait où il va nous mener.
Voilà.
Angelo.
Voilà. Mais en même temps, il y a chez lui quelque chose qui en arrière-plan qui bouillonne. Et Alessio était un petit peu ce complément, en fait. En tout cas, ce qu'il ne pouvait pas exprimer. Et donc Alessio, il y a un moment, je pense, je parle aussi de l'assassinat d'Umberto Ier, donc oui, par Brescia, et donc il a une admiration par Brescia, effectivement, qui tue le roi, et j'avais très très peur que ce personnage parte dans une violence, ces anarchistes violents.
On a l'impression justement que lorsque Brescia, on peut le dire, meurt en prison, la vie d'Alessio dégringole aussi.
Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, je me suis dit, il peut pas partir dans cette direction. Alors là, c'était moi, parce que le personnage y allait, mais moi, je résistais. Et donc, il a fallu que je casse quelque chose. Il a fallu que je l'empêche d'aller vers une violence, une très grande violence, quoi. Et donc, ben voilà, je me suis renseignée auprès d'amis qui étaient médecins, qu'est-ce que je pouvais faire pour enrayer cette violence et ce désordre qu'il pouvait
donc, amener. On ne va pas dire la suite. Mais il y a aussi, justement, la sœur d'Alessio et cette histoire d'amour assez improbable entre Angelo et elle.
Tout à fait. Oui, oui. Alors, c'est là où il y a Verdi qui intervient avec Otello, avec l'opéra Otello.
Oui, mais on sent toutes les références, les sous-textes, les références, justement, Verdi, Otello, voilà.
Mais si tu savais de la manière dont ça vient tout bêtement, en fait. J'ai dû discuter avec une amie, justement, qui relisait systématiquement mes romans, mes chapitres, et à un moment, elle parle d'Othello. Et là, tout d'un coup, je me suis emparée de ça. Parce que moi, je fonctionne.
Ah oui.
Je fonctionne sur les mots. Je n'ai pas. Il y a un mot, une image, et tout de suite, j'ai l'imagination qui est en roue libre. Et c'est donc je suis partie d'Othello et là j'écoutais l'opéra d'Othello, je suis repartie sur le livret et l'histoire d'Othello et là je me suis dit mais oui.
Mais justement, Othello, on peut avoir l'imagination en cavale, comme tu dis, mais peut-être pas autant le talent. Véritable art du portrait, en peu de mots, je te demande de prendre page 28, nous allons voir quelques lignes sur le portrait de Margarita. Voilà, page 28.
28. Alors... donc je vais peut-être...
Juste...
Elle avait parlé, c'est ça ?
Oui, voilà.
Elle avait parlé d'un ton monocordella, bougeant à peine des lèvres minces qui formaient un trait sombre sur sa pommade. Margarita n'avait pas de visage, mais un masque, et seuls ses yeux clairs semblaient lui appartenir et trahissaient ce qu'on pensait deviner de sensibilité, de bonté, de détermination. Sur le corps menu de la piémontaise, sa lourde chevelure noire faisait penser à un épi sec sur sa mince branche.
Magnifique, parce que c'est encore un tableau, un portrait qui n'est pas figé sur les portraits traditionnels, mais par touches extrêmement subtiles. Moi, je suis assez époustouflée.
En fait, j'écris ce que je ressens. Je ne m'attache pas à la réalité. Si je devais te décrire, je serais incapable de parler de la couleur de tes yeux, mais plutôt de tes expressions, de ce que tu dégages.
De ma vivacité.
Voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis avec mes personnages.
Voilà. Et puis, pour en finir, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais il faut qu'on avance, il y a une phrase qui, à mon sens, une seule phrase résume, mais... avec une intensité, la vie émotionnelle et les relations des personnages insulaires, c'est l'extrême pudeur dans la manière de dire. Page 280, je lis, « Il se contenta de lui prendre la main, lui caresser le front. Reste tranquille, pas... Comme dire est difficile, il répéta ému. « Reste tranquille, papa », et il se sentit soulagé et triste. Mais là, tu ne peux pas me dire que c'est de l'imagination. Tu as parfaitement saisi cette mentalité insulaire que je trouve aussi bien chez moi en Martinique qu'à La Réunion. On aime, au sein de la famille matrifocale, on aime, mais on n'ose pas montrer et dire qu'on aime. Il faut vraiment un tempérament d'artiste pour saisir cette subtilité-là.
Alors, je pense que je suis un peu aussi comme ça.
Ah.
Oui, bon, j'ai l'impression qu'au fond, je n'écris que sur moi.
Oui.
Et puis, en même temps, bon, effectivement, avec mes élèves, j'avais remarqué qu'elles avaient énormément de difficultés à exprimer quoi que ce soit. Et qu'effectivement, c'est dans le tempérament créole de ne pas savoir dire. Ouais.
Mais contrairement à moi qui dis beaucoup, qui suis très tactile, qui montre beaucoup.
Oui. Voilà.
Alors, on passe sur le style. Moi, je disais, ce roman se lit, s'entend et se voit. Tu convoques les sens avec de vraies trouvailles. Page 29, des petites pépites comme ça que je te demande de lire. Page 29, au début de la page, ils évitèrent de justesse, voilà.
Ils évitèrent de justesse un seau d'eau sale lancé d'une maison. Par la porte ouverte, ils entendaient des éclats de voix, et les femmes semblaient poursuivre une conversation d'une fenêtre à l'autre. Les hommes étaient regroupés plus bas, un verre à la main, dans une bicoque qui faisait office de bar, et avec la même verve que leurs femmes, discutaient haut et fort.
Je ne sais pas par qui tu as été adoubé en littérature, mais quels sont tes maîtres? Parce que là, je sens l'unanimisme de Jules Romain.
Alors, je vais te dire, je n'ai pas fait d'études littéraires. Donc, de ce côté-là, mes maîtres, ça a été Dostoïevski,
oui.
Ça a été Zola, oui. Évidemment.
Ah, ben là, j'en parlais plus tard. Il y a du Zola. Oui, mais bah oui. J'ai trouvé ici cette forme de communion, d'une fenêtre à l'autre, d'un étage à l'autre, dans la vie de ces petits quartiers. C'est vraiment l'unanimisme de Jules Romain.
Ouais, alors ça, je ne sais pas, mais ce qui se passe, c'est quand je lis, je m'imprègne absolument du regard, de la manière dont les écrivains, dont les auteurs écrivent. Et quelquefois, je me dis, tiens, cet auteur, il a mis ça en avant. Et donc, je le note. Et bien entendu, après, ça ressort. Je m'en saisis à ma manière, quoi. Donc, j'ai dû lire ça. Et en fait, c'est marrant parce que moi, je n'écris pas de façon... je ne fais pas de plan. J'écris de façon assez instinctive. Et surtout... Je suis dans mes personnages, voilà. Et j'ai envie de dire que d'une semaine à l'autre, je ne sais pas ce qui va se passer. Et oui. Tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une étincelle, il y a un mot, il y a une image, il y a un son. Et là, l'histoire part toute seule. Et donc, quand j'ai saisi ce que je veux écrire, à ce moment-là, je vais faire mes recherches. Mmh. Mais je ne les fais pas avant.
Avant. Oui, mais tu parlais justement de Zola. Moi, j'ai trouvé des passages, il y en a plusieurs, mais qui vraiment, ce n'est pas une imitation de Zola, qu'on soit, mais c'est à la manière de, et c'est tellement bien fait. Je te demande, page 59, parce que je ne résiste pas à ce petit passage de la description du quartier de la Lanternerie. Ouais. Le quartier de l'amour, c'est joliment dit.
Ah, il existe.
Ah oui.
Il existe. Oui, oui, je suis allée. Bah, alors, moi, je connais très peu Marseille. Et donc, j'ai mon amie qui relisait systématiquement mes chapitres est marseillaise. Donc, je suis allée lire sur Marseille au début du 20e. Et puis, j'ai regardé des vidéos. Donc, tout ça, c'est pas. C'est une recherche documentaire. Mais c'est pas du vécu, par contre.
Et oui, là, mais je suis tombée
sur ce séjour sur ce quartier de l'amour. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, ça.
C'est tellement réaliste que nous, les profs de lettres, on retrouve cette figure un peu, donnant un peu l'hypotypose, où en lisant, on se représente ce qui est dit.
Oui, mais moi je vis. Donc, je ne peux écrire que ce que j'imagine. Et donc, effectivement, pour moi, les sens sont toujours... je vois, je sens, je goûte. Enfin,
c'est comme ça que
je fonctionne,
en fait.
C'est
un roman qui se lit, s'entend et se voit.
Tout à fait.
Voilà.
Oui, donc, non, je suis quelqu'un de sensuel et ça se ressent dans les...
Voilà. Donc, tu nous lis, mais après ce quartier de la Lanternerie, il y a immédiatement après... Le quartier de l'Embarcadère à Saint-Denis, mais alors, franchement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va le lire, les deux.
Alors, tu veux celui, page...
Les deux, page 59, il se trouva, et ensuite à Saint-Denis.
C'est moi, je les aime bien. À Saint-Denis, la rue de l'Embarcadère ne ressemblait en rien à cette rue. On y rencontrait bien quelques pauvrettes en quête d'un client, mais la débauche ne s'affichait pas aussi effrontément. Angelo et son ami Tilly vanguaient souvent, attirés moins par les joueurs de Bobre et de Cayambe que par une demoiselle qu'ils espéraient apercevoir derrière la porte entrouverte de petites cases. Ils avaient le choix, tant la rue semblait destinée au repos des guerriers. Mais pour eux, l'attraction de la rue de l'Embarcadère était le bar de Mlle Zita. Une case plus spacieuse que les autres, la seule à avoir pour enseigne une silhouette de femme peinte, sans doute à partir d'un dessin de mode de Paris. On y buvait, jouait, chantait, et on se retirait dans l'arrière-cour, dans de sombres cabanons, avec une jolie fille avec une fille jolie et bien habillée. La maison avait perdu son prestige depuis que les marins trouvaient dans les masures du port leurs courriers et des pauvrettes venues des écarts. Mais la réputation de la matrone, avec ses 80 kilos, la bouche peinturlurée, les bras aussi solides que ceux d'un portefeuille, était restée intacte. Elle gardait à la main, comme une provocation ou le symbole de son pouvoir, une cigarette allumée, parfois une pipe. Ainsi parée d'une autorité incontestée, elle veillait à la bonne tenue de son établissement. Les malappris s'en souvenaient lorsqu'ils étaient jetés dehors, après avoir reçu un verre de rhum assaisonné de piment.
Bien, merci. Malheureusement, notre émission tire à sa fin. Je ne résiste pas à cette phrase que j'ai trouvée encore une vraie trouvaille stylistique, une vraie pépite pour dire un peu la métaphore de l'attente. Les heures n'avaient plus de minutes, ah oui. Seulement de longs mugissements ponctués de sauvages, vociférants vrombissements. Magnifique. Alors, notre émission se termine. Jocelyne, as-tu des dates à nos des dates de signature, de rencontre? Et puis, je rappelle à nos auditeurs cet ouvrage, mais vraiment qui nous embarque, cet ouvrage à lire, Jocelyne Lebiez, Un pont sur l'océan, aux éditions Orphie.
Alors, donc, j'ai une séance de signature qui est prévue au port le 28, voilà, à 15h. Et j'en ai une autre, donc le 4 mars. Alors, ça va être une journée un peu longue, chargée pour moi. Donc, à 9h, je suis à la librairie des Roches-Noires à Saint-Gilles. Et l'après-midi, à 14h, je suis à la librairie Autrement à Saint-Pierre.
Voilà pour les rendez-vous. Je te laisse conclure le mot de la fin pour nos éditeurs et puis leur donner envie de se procurer ton livre.
Alors, ce que j'ai voulu dans ce roman, en fait, c'est raconter l'histoire d'un itinéraire individuel. Qui sont les nôtres, en fait, qui se construisent dans un environnement, qu'il soit social, politique, familial, géographique, culturel, en mettant l'accent, et c'est ce que j'ai voulu faire dans mon roman, sur l'environnement. Et j'ai imaginé un créole, même un petit jeune créole, là, même de maintenant, qui quitte la Réunion pour la métropole, et comment le choc culturel qu'il reçoit et comment il va se construire. Et quand il va revenir, ça ne va plus être, bien sûr, celui qui va revenir ne sera pas celui qui est parti.
Évidemment.
Et c'est ça aussi que je voulais montrer.
En tout cas, c'est réussi. Merci, Jocelyne, d'être venue au micro de Radio Arc-en-Ciel. Merci à toi, Didier, pour ta complicité technique. Et merci à vous, chers amis auditeurs, d'avoir fait le choix de Radio Arc-en-Ciel pour votre émission Palabre.